Aujourd'hui, l'Afrique, de façon générale, et notre zone sudano-sahélienne, est présentée comme le continent de tous les maux. Les conflits ethniques, les conflits religieux, la maladie, la corruption, tout. Et la cause est attribuée à la malgouvernance. Et la bonne gouvernance est brandie comme la panacée pour miraculeusement mettre un terme à toutes ces difficultés.
L'Afrique a beaucoup à faire, certes, mais l'Afrique doit revoir un peu son histoire, son passé, analyser les méthodes par lesquelles nos dirigeants d'autrefois, qu'ils fussent roi ou empereur, comment ils ont pu garder le pouvoir et surtout l'exercer au profit du plus grand nombre.
La notion de gouvernance, la pratique de la gouvernance, la réalité a varié dans le temps. Forcément, quand les hommes vivent ensemble en communauté, il y a des règles pour régir les rapports, pour organiser la vie, le vivre ensemble, et tout le monde se soumet à cette règle pour permettre à la société de fonctionner. La gouvernance, ça se ramène à ça. Et si on regarde ça, on se rend compte quand même qu'en Afrique, eh bien, il y a toujours eu non seulement la gouvernance, mais la bonne gouvernance. Parce que les gens ont vécu, et pour permettre une histoire plusieurs fois centenaire, il faut bien trouver les mécanismes qui permettent d'organiser les rapports entre les hommes, d'organiser la production, d'organiser la répartition des biens, etc. Tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui. Donc tant que l'Afrique avait l'initiative, tant que c'était elle qui décidait, tant que les décisions, les références n'étaient pas extérieures, ça ne venait pas du dehors, ça partait de l'intérieur, elle a trouvé les moyens de survivre et de traverser les âges.
Mais ce qui a été peut-être grave, c'est que on nous a présenté nos bâtisseurs d'empire comme des sauvages, des barbares, des sanguinaires.
Si on prend la période précoloniale, donc où l'Afrique était elle-même, elle était reconnue, elle vivait selon ses propres référentiels, elle avait des rapports avec le reste du monde qu'elle établissait en fonction de ses rapports. Bon, les problèmes de gouvernance étaient relativement clairs parce que les références étaient vraiment internes. Et ce qui prévalait à l'époque, c'était quand même le privilège de l'âge. Les anciens étaient très importants et c'était l'âge qui donnait la légitimité, qui donnait le droit de gérer les rapports. Les gens se mettaient d'accord sur un certain nombre de choses et maintenant, le plus âgé était chargé de la mise en œuvre. Il y avait quand même toujours un accord qu'il fallait mettre et chaque fois qu'il disparaissait pour une raison ou pour une autre, il était encore remplacé par le plus âgé. Mais si on se rend compte que vous n'êtes pas apte ou bien vous n'êtes pas à mesure d'assumer cette responsabilité qui est celle de dirigeant, on trouvait à l'interne des moyens pour que vous n'apparaissiez pas. Apparaît à votre place quelqu'un qui est moins âgé que vous, mais qui est mieux positionné que vous pour assumer la responsabilité. Et puis, la première influence extérieure qui va influer sur le choix des dirigeants, sur la transmission du pouvoir, sur l'exercice du pouvoir, le premier phénomène extérieur important, c'est l'islam. Et avec l'islam, on passe de la transmission de père en fils. Ce n'est plus le frère, ce n'est pas forcément le plus âgé, c'est le fils qui succédait à son père.
Si vous prenez la confédération de Fouta Toro, comment se faisait la transmission du pouvoir, les successions? Même si l'islam a dénaturé dans certaines régions, il y avait des corps constitués qui participent du choix du chef, voire du roi.
Du fait que l'islam a fait que la succession est passée de père en fils, est-ce que ça c'est quelque chose d'inhérent à l'islam ou est-ce que ce sont les pratiques et les conditions locales qui l'ont fait? Pourquoi? Parce qu'on voit par exemple qu'il y a eu des sultans célèbres, par exemple en Égypte, il y a eu Shajarat al-Durr qui est extrêmement connu. Ensuite, en Indonésie, l'islamisation n'a pas empêché l'apparition de sultans.
Pour ce qui concerne l'islam, et avant la colonisation directe, il y a une phase essentielle, c'est la période de la traite. Pendant cette période, les négriers ont fourni des armes à feu à des gens qui ont constitué des royaumes négriers. Et la force brutale est devenue élément déterminant de la constitution d'État et en même temps de la nomination de chef. L'arme à feu introduite par le négrier a contribué à donner naissance à des États négriers qui, avec le reflux de la traite, se sont effondrés. Et là, nous entrons maintenant dans la période de l'État colonial.
C'est vraiment avec la colonisation qu'il y a la grande rupture avec la pratique du pouvoir et la transmission du pouvoir. Parce que la puissance coloniale, elle a directement exercé l'autorité sous une forme qui était complètement inconnue des populations. Et les gens qui jusqu'ici avaient géré le pays, avaient géré les États, étaient complètement éliminés sur la base des critères qui ne leur étaient pas habituels et ils sont remplacés par des gens, c'était peut-être une branche dissidente de la famille qui était mise là parce que l'autre s'était opposé par tous les moyens à la conquête coloniale. Ou bien c'est tout simplement des gens qui n'avaient jamais eu accès au pouvoir, qui n'ont jamais accédé au pouvoir, mais puisque c'est la force qui était là, qui les imposait là. Bien sûr, ces gens n'avaient aucune légitimité aux yeux des populations.
En effet, le système colonial reposait à la base sur la chefferie. C'était les chefs de canton et chefs de village, mais surtout les chefs de canton, qui étaient l'aspect central du pouvoir local, qui représentaient la forme ultime de l'administration coloniale. La chefferie de canton tient toute sa légitimité du bon vouloir des gouverneurs et des commandants de cercle. C'est eux, au fond, qui géraient le pays pour le compte de l'administration coloniale.
Mais une fois l'indépendance acquise, les nouvelles élites n'ont pas remis en cause le système qui leur a permis d'être des dirigeants. Et ils vont utiliser ce système pour se maintenir au pouvoir.
Ce pouvoir-là a sa légitimité dans le fusil du colon. Il a dans sa légitimité dans la force militaire. Vous savez très bien que chez nous ici, le découpage territorial, le premier commandant était militaire. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de penser Guinée, Mali, Burkina. Mais vous savez que moi, et jusqu'à ma mère, on ne savait pas ça, cette différenciation territoriale. Et il n'y a pas eu de passation entre cet État-là et nos chefs traditionnels. Et les États sont les seuls corps étrangers qu'il y a dans ce pays. Les vrais corps étrangers qu'il y a dans ces espaces, c'est les États.
Ce qu'il y a, c'est que dans ça, c'est une partie seulement du contrat qui est exécuté, l'autre partie n'est pas. Parce qu'on laisse le chef. Mais le chef, il est tenu d'assurer la sécurité, d'assurer la prospérité, d'assurer l'harmonie, d'assurer la paix. De moins en moins, vous assurez ce que vous ne remplissez pas votre part de contrat. Alors, dans ces conditions, pourquoi il a perduré? Il a perduré parce que ces dirigeants africains ont trouvé le moyen de faire appel quelque part à des valeurs africaines. On sait